Bien, nous allons peut-être commencer. Comme vous l'avez compris aujourd'hui, ce qui est rare depuis 2007, je crois que c'est seulement la seconde fois que nous avons dans ce séminaire un invité que je vais présenter et qui est Daniel Fabre, dont le thème de l'intervention peut croiser directement le titre du séminaire sur les histoires textuelles connectées. Mais avant de le présenter, je voudrais rappeler, et vous avez d'ailleurs des petites informations à l'entrée, qu'à partir de demain jusqu'à dimanche se tient le Salon du Livre des Sciences Humaines, qui se place dans l'espace d'animation des Blancs-Manteaux, qui est organisé par la Maison des Sciences de l'Homme, et avec cette année l'invitation des éditeurs du Québec. Et demain, il y a une après-midi qui est plus, on va dire, enfin, scientifique, et dans laquelle il y aura plusieurs interventions. Je commencerai, je crois, à 14h30 par une intervention sur les rapports entre l'oralité et l'écriture. Donc, on est dans les perspectives qui sont aussi celles que nous allons entendre dans quelques minutes, et en particulier avec cette question qui, aujourd'hui, est très, très préoccupante pour l'édition, tous ces livres qui sont faits à partir de l'édition des cours ou des conférences, donc à partir d'une oralité. Et ce qu'on m'a demandé de faire, c'était de réfléchir sur les rapports historiques entre, d'un côté, la transmission écrite, la transmission orale de textes écrits, et inversement, la transcription, donc par définition écrite, de la parole vive. Et ce serait le thème de cette conférence. Mais enfin, vous avez ces petites indications, cette forme-là, d'angle à l'entrée. Alors aujourd'hui, donc, je suis très content d'accueillir Daniel Fabre, qui est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et qui est anthropologue, mais avec, vous le comprendrez, une dimension historienne et historique extrêmement forte. Je ne voudrais pas revenir sur la bibliographie de Daniel Fabre dans son entier, simplement rappeler qu'un certain nombre de ses premiers livres ou écrits portaient sur les cultures carnavalesques, en particulier dans le sud-ouest de la France, mais que par rapport à notre séminaire ou par rapport au cours, les travaux les plus importants à mentionner sont des travaux qui portent sur ce qui peut être défini comme une anthropologie de l'écrit. En 1993, il avait dirigé, organisé et écrit à l'intérieur de ce volume, qui a pour titre « Écriture ordinaire », un magnifique essai sur le berger, entre les contes, au sens de compter les animaux, et les écrits, soit les écrits produits par les bergers, soit les écrits qui se servent de la figure du berger pour donner authenticité, par exemple, au genre de l'almanach ou des calendriers, et que 4 ans ensuite, il y a un deuxième volume. Le premier avait été publié par Paul, le second a été publié par la Maison des sciences de l'homme et qui a pour titre « Par écrit, ethnologie des écritures quotidiennes ». Et c'est une préoccupation constante de Daniel Fabre. Je citerai simplement deux autres intervention dans ce champ d'études, l'une qui était la direction d'un numéro de l'Homme en 2010 sur l'autobiographie, l'ethnobiographie, c'était le titre, et d'autre part un essai magnifique publié préalablement dans le volume collectif Pratique de la lecture et qui était consacré au livre et sa magie, c'est-à-dire le livre de magie comme une image possible de la magie de tous les livres. Et à partir de là, les rapports entre l'écriture qui permet de domestiquer ces pouvoirs puissants mais inquiétants de l'écrit par la transcription, et d'autre part le fait que ces vertus ou dangers attribués au livre de magie pouvaient servir de paradigme pour penser toute forme de rapport d'appropriation du texte imprimé. Le deuxième axe de recherche plus récent de Daniel Fabre, mais qui lui aussi est lié avec, par exemple, le cours que j'avais fait la semaine dernière et des séminaires de l'année dernière, qui est le thème autour de l'écrivain, et en particulier l'écrivain aujourd'hui, même s'il s'agit d'écrivains du passé, avec des analyses portant sur les maisons d'écrivains, devenus des lieux obligés d'une forme de tourisme culturel, avec des réflexions ou des essais sur les lieux de l'écriture, qui ne sont pas forcément la maison de l'écrivain, et aussi sur la figure de l'écrivain moderne, un ensemble de livres à paraître, d'articles déjà publiés ou d'entreprises collectives. sont les deux axes. Il y en a beaucoup d'autres dans le travail de Fab, par exemple, une anthropologie des formes esthétiques. Mais par rapport à nos intérêts, ces travaux sur l'anthropologie d'écriture et ces travaux sur la figure de l'écrivain et donc les lieux qui lui sont attachés dans la construction d'un modèle moderne, sans doute à partir du XVIIIe siècle, de la figure de l'auteur, sont deux axes absolument essentiels. Un intérêt récent aussi, il l'a développé pour les îles, et je pense qu'on rencontrera certaines îles aujourd'hui, dans la communication qu'il a proposée pour s'inscrire dans le cadre du séminaire, et qui a pour titre « Le paradigme des derniers, littérature, philosophie et ethnologie ». Et donc je compte sur lui pour éclairer qui sont ces derniers.
Merci, merci Roger. Ça me fait bien sûr très plaisir d'être à tes côtés aujourd'hui. Et ta présentation était bien sûr parfaite. Et je te remercie de me donner l'occasion de revenir dans ce séminaire sur un thème qui n'a jamais quitté ma réflexion et dont je pense qu'il fait corps avec la théorie occidentale des cultures et de la culture. Le paradoxe étant que sa centralité même, son extraordinaire productivité, comme vous verrez, dans une grande diversité de textes, d'images, de théories et de pratiques scientifiques, l'a rendue invisible ou peu perceptible. Quel est ce thème ? Alors, je réponds à cette question en vous projetant deux courts extraits de films. Alors, le premier s'intitule « The Last of His Tribe », le dernier de sa tribu. Il a été diffusé en 1992. Nous sommes au nord de la Californie, exactement à Oroville, qui est une petite ville pionnière, le matin du 29 août 1911. Et voilà cette matinée, l'événement de cette matinée, reconstitué sous la houlette du cinéaste Harry Hook. Alors j'espère que ça va marcher, parce qu'avec toute cette annonce, si ça rate, ce sera un peu minable. Mais ça devrait marcher.
Oui.
Ça marche. Mais attendez. Ah non, c'est pas ça. Vous le voyez, là ?
Non.
Attendez, alors que faire ? Et là, l'image, c'est pas le début de mon... Ah, voilà. Comment je fais pour le... mettre plein écran ?
Voilà. Si ? On peut peut-être éteindre, je ne sais pas.
Ah, ce truc en bas, là.
Pour faire quoi?
On y voit, on y voit. On va éteindre.
Sasquatches. New one. Who? Kate Yellis?
preacher's done yet. God Almighty, Bob, it's a wild area.
Big discovery like that, son. It's surprising sure Dr. Kroger didn't come in the dump, does he?
Voilà.
Alors,
comment je sors ça? Voilà. Oui. Et le deuxième, avec lequel j'enchaîne immédiatement.
Cette vallée me faisait penser à un tableau représentant la nuit de la liturgie.
Alors lui, il s'intitule Derzuzala. C'est l'œuvre d'un cinéaste japonais très connu et très important, Akira Kurosawa. Il a été tourné en 1975. Et là, nous sommes en 1902, à la frontière de la Chine et de la Russie, dans la taïga de l'Oussouri, en compagnie d'une petite troupe de militaires conduite par un jeune géographe, Vladimir Arseniev. Et vous le voyez ici incarné par l'acteur. Il est près de son feu, les militaires se sont arrêtés dans un endroit très inhospitalier et ils ont décidé de bivouaquer dans ce lieu.
Bonjour, capitaine.
Regardez-le, c'est pourtant vrai. C'est un homme.
Il a plutôt l'air d'un homme, tu crois pas?
J'espère qu'il ne ment pas. Je me demande d'où il peut bien sortir.
C'est quoi une bête sauvage, puisqu'il parle?
Pourquoi je ne te dirai pas?
Voilà. Nous nous arrêtons là et nous pouvons rallumer. Donc, à peu près au même moment dans l'histoire, hein, 1902 dans le cas de Derzuzala, 1911 dans le cas du personnage sans nom que vous avez vu apparaître dans le film de Hook. Nous sommes de part et d'autre du Pacifique et bien avant les films dont vous venez de voir des extraits, les deux rencontres qu'ils représentent ont donné lieu à deux ouvrages fascinants. L'un de Vladimir Arseniev, Derzuzala, Moscou 1924, l'autre de Theodora Kreuber, Ishi in Two Worlds, 1961. Ces deux livres sont des biographies qui, comme il se doit, contiennent dans leur titre le patronyme de leur héros, l'un Ishi, I-S-H-A, l'autre Derzuzala, Ishi, deux textes entre reportage et roman, littérature et vérité, où les auteurs ne cessent de nous répéter « ceci n'est pas un conte, mais leur vie est un roman. La vie des personnages qui sont au centre de ces récits est un roman. » J'ai choisi là les deux scènes qui sont des scènes d'apparition. Hein, on voit Ishii qui sort, il sort dans une espèce de plateau là, dénudé. Il s'approche de cette petite ville, Oroville. On est à l'extrême nord de la Californie, mais d'ailleurs, vous avez des cartes. Hein.
Vous avez des cartes. Peut-être pas assez, mais vous pouvez les partager. Il y en a une quarantaine.
Ishii se présente. Enfin, il se présente, il essaie de s'introduire dans l'abattoir de la petite ville d'Oroville. Vous avez remarqué qu'il a les cheveux courts. En fait, ses cheveux sont brûlés. Il a brûlé ses cheveux pour une raison que je vais vous expliquer tout à l'heure. Et ceux qui le capturent se heurtent immédiatement à un silence total, puisque cet homme ne comprend aucune des langues, non seulement dans lesquelles les pionniers s'adressent à lui, mais on verra tout de suite, c'est d'ailleurs les personnages qu'on voyait arriver dans la séquence suivante, que les linguistes de l'université de Californie, de San Francisco, n'arrivaient pas à communiquer avec lui. Et il a fallu un très long travail d'apprivoisement réciproque et puis surtout de reconnaissance de la famille linguistique à laquelle pouvait appartenir la langue parlée par Ishii pour entamer avec lui un véritable dialogue. Alors Ishii vivra au Muséum de San Francisco de 1911 à 1916, année de sa mort, et dans des conditions tout à fait particulières, puisque cet homme seul, dernier représentant de la tribu des Yahi, qui est un des sous-groupes des Yana, qui est un groupe indien de la Californie du Nord, Ishii va finir sa vie à l'intérieur du muséum, devenant l'informateur de grandes figures fondatrices de l'anthropologie américaine, Kreuber d'une part, l'élève de Boas, et Edward Sapir, qui est le grand linguiste, qui était alors très jeune et qui a beaucoup travaillé avec Ishii. Il a également été filmé, on l'a ramené dans son pays pour lui faire refaire en situation les gestes du chasseur, essentiellement du chasseur. Et on a sur Ishii, c'est l'homme au fond qui, dans l'espèce humaine, a été le plus étudié. C'est-à-dire, pendant 5 ans, on a cessé de l'interroger, de le filmer, de le faire parler, de le faire chanter, de le faire bouger, enfin, etc. Mais ce n'est qu'en 1961 que Théodora Kreuber, la deuxième femme de Kreuber, qui n'avait pas connu Ishii, va écrire sa biographie, qui est traduite en français d'ailleurs. Elle est publiée dans la collection Terre humaine, mais dans une édition un peu sèche où vous avez juste la biographie et peu d'informations sur ce qui l'entoure. Derzu Uzala, c'est aussi une situation de rencontre exceptionnelle, puisque la troupe menée par Vladimir Arseniev est un militaire, géographe, topographe, mais qui a une culture anthropologique, si le terme n'était pas un peu anachronique. Il a suivi à Saint-Pétersbourg des cours dans un institut qui s'intéresse à la diversité dans l'Empire russe, c'est un type très cultivé, et il voit donc surgir, au cours de son premier voyage dans cette taïga de l'Oussouri, qui est une forêt tout à fait impraticable, ce personnage. Alors là, le film, c'est un peu raté, parce que vous avez un dialogue en français là, qui est un peu...
Alors, de ça, très c'est... mauvais doublage, ouais, de alors, western. Là,
une catastrophe. En fait, Derzhou parle un peu russe, donc il s'adresse dans la version originale en russe à la petite troupe, et puis on apprendra qu'il est le dernier représentant d'un groupe, les Gold, connu sous le nom de Gold, aujourd'hui Nanai, mais enfin peu importe, lui se présente comme un Gold. Et vous le voyez arriver avec son sac, hein, énorme, là, son sac à dos, et son sac contient tout ce qui est nécessaire à sa vie. Une scène, d'ailleurs, suivante le montre, déballant ses affaires et en commentant les usages, c'est-à-dire, au fond, à la fois son trésor, ses moyens d'existence, enfin, tout est contenu, comme ça, sous son dos. Ces hommes seuls sont donc l'objet de deux enquêtes, celle de Kreuber et celle d'Arseniev, et bien sûr d'une enquête historique de la part de leur biographe. Alors, dans le cas de Ishii, on arrive à reconstituer son histoire qui coïncide avec la fin des Yaï. Qui depuis, bon, il apparaît en 1911, mais à partir de la ruée vers l'or californienne, ces Indiens du Nord sont systématiquement massacrés. On a aujourd'hui, les historiens ont raconté dans le détail cette histoire, et on sait que le groupe auquel il appartient et la famille qui lui restait a été, au cours d'une rencontre avec des fermiers, a été massacré dans les mois qui précèdent son apparition. Donc il est absolument seul. Il est absolument seul, et il va d'ailleurs, une partie des échanges avec les savants qui s'intéressent à son cas portera justement sur la reconstitution des derniers moments des Yaï, dont il continue à parler la langue. Derzhou, c'est un peu la même histoire. Lui-même se présente comme le dernier Gold, et il raconte une vie qui est tout aussi dramatique. Les Gold sont dans ce coin, à la limite entre Chine et Russie, ce coin de Sibérie du Sud, à la limite entre Chine et Russie, des trappeurs, chasseurs, piégeurs de forêt, et surtout d'excellents connaisseurs des racines de ginseng, dont ils font la cueillette en forêt. Ces racines font l'objet d'un commerce qui est en pleine expansion en Chine, et les commerçants chinois leur achètent le ginseng qu'ils échangent compte de l'opium. Et Derzhou raconte comment, dans son village, la consommation soudainement introduite de l'opium a détruit non seulement les corps, mais d'abord la société. Au point, dit-il, dans une sorte de vision tragique qui a toutes les dimensions d'une parabole, que les femmes qui prenaient de l'opium, dit-il, n'allaitaient même plus les enfants. Et devant cette décomposition, il décide de repartir en forêt, de vivre seul, après la mort de sa famille, hein, de sa femme et de ses enfants. Et depuis des années, il parcourt la forêt, il connaît les langues, à la fois le chinois, le russe, le coréen. Il vend des peaux de sauvagine qu'il piège dans la forêt. Et tout comme Ishii, mais dans des conditions différentes, il va transmettre tout son savoir. Il va transmettre son savoir à Arseniev, dont il voit très vite, bien sûr, à Arseniev et sa troupe, dont il voit très vite qu'ils sont tout à fait ignorants du monde physique, du milieu écologique, dans lequel ils sont amenés à travailler, tout ça pour dresser des cartes sur la frontière, hein, puisqu'ils sont là pour ça. Alors, cette solitude, d'Ishii et de Derzou n'est pas seulement l'effet de vicissitudes individuelles. Ishii et Derzou sont en même temps les derniers témoins d'une histoire d'éradication violente qui a pour effet, et ça c'est la situation qui crée cet effet, d'aboutir à la complète coïncidence entre leur individualité et une communauté, mais une communauté qui a existé et qui a disparu. Et donc les deux biographes, Arseniev et Kreuber, vont s'efforcer de montrer comment ces deux hommes ont progressivement exprimé par le langage, mais aussi par le corps qui agit, les gestes, les émotions, les rites, un monde dont ils sont la dernière part. Alors, ces personnages, j'ai proposé de les nommer l'un et l'autre des individus-monde, et je pourrais d'ailleurs ajouter à ces deux figures majeures et exemplaires une bonne douzaine d'autres exemples, parfois moins documentés, mais aussi riches, qui sont des exemples de survenants, qui sont aussi des survivants. Hein, ils surgissent de nulle part, en tout cas d'un monde qui est un blanc de la carte, qui est totalement inconnu. Le fait que Arseniev soit cartographe est de ce point de vue très intéressant. Et en même temps, ils survivent dans la mesure où tout ce qui faisait le milieu social dans lequel ils ont grandi et vécu a disparu. Ils apparaissent, donc ils apparaissent comme sortis d'un passé proche, mais aboli. Comment ce modèle, très émouvant, enfin, où il y a une dimension de pathos enfin, très, très forte, de récit de dernier, a-t-il été mis en forme, à quel moment et dans quel contexte? Bon, là, j'ai choisi volontairement, vous voyez, deux récits très proches chronologiquement, géographiquement très distants, hein, on est de part et d'autre du Pacifique, et assez proche de nous, puisque nous sommes au début du XXe siècle. Alors, il se peut que quelques hypothèses, voire quelques parallèles, remontent à votre esprit. Je pense avoir un jour découvert non la source ou la racine, évidemment, de ce type de situation mise en récit, mais au moins le premier récit complet, à la fois singularisant, il s'agit d'un destin, on parle du destin d'un homme, et réflexif, c'est-à-dire on décompose la situation, on voit ce qu'elle a de spécifique, le premier récit complet qui déploie tous les caractères de cette histoire, qui est aussi une épreuve de pensée sur l'histoire, sur le temps, sur les sociétés, sur les cultures. Et ce premier récit est un texte peu ou mal compris, me semble-t-il, qui se trouve à peu près au centre d'un livre très célèbre, Les Lettres persanes de Montesquieu, paru, comme vous savez, anonymement en 1721. Alors, l'histoire des Lettres persanes, bon, bien sûr, vous la connaissez tous, quatre amis persans, curieux hein, de connaître l'Occident, décident de partir vers l'Ouest, les plus connus, les plus célèbres, parce qu'ils font bien sûr l'objet des extraits scolaires, c'est Rika et Usbek qui arrivent à Paris, mais on oublie que l'un d'eux s'est arrêté à Venise, c'est Redi, et il s'est enfermé dans la bibliothèque. Il est devenu un rat de bibliothèque. Et qu'un quatrième, le plus âgé, ou du moins de la génération d'Uzbek, puisque vous savez, Uzbek, c'est le sage, un quatrième, Ibn, lui n'est pas sorti d'Asie, il s'est arrêté à Smyrne, un port sur la mer Égée, qui est un port d'ailleurs très international, enfin, où se fait en particulier un commerce très actif avec les Génois, et il a décidé de s'arrêter là. Au fond, le dépaysement lui a paru suffisant. Et Ibn est un personnage très important parce que Usbek lui écrit beaucoup. Il reçoit beaucoup de lettres de son ami Usbek. Et dans le dossier de correspondance que présente Montesquieu, il y en a une d'Ibn. C'est la lettre 67. C'est celle qui nous intéresse et qui se caractérise par sa longueur inhabituelle. C'est la plus longue lettre persane du recueil. Alors, après des manifestations d'amitié, la lettre commence ainsi. « Il y a ici, donc à Smyrne, dit Ibn à son ami Usbek, un guèbre, je laisse ce terme, on y reviendra, qui, après toi, a, je crois, la première place dans mon cœur. C'est l'âme de la probité même. Des raisons particulières l'ont obligé de se retirer dans cette ville où il vit tranquille du produit d'un trafic honnête avec une femme qu'il aime. Sa vie est toute marquée d'actions généreuses et quoi qu'il cherche la vie obscure, il y a plus d'héroïsme dans son cœur que dans celui des plus grands monarques. » C'est la présentation, une présentation qui n'est pas exempte d'effets rhétoriques, en particulier d'antithèse. Il mène une vie très obscure, mais c'est un homme héroïque. C'est un individu anonyme et discret que Ibn estime à l'égal des plus grands monarques. Référence qui, à mon sens, souligne l'absolue singularité du personnage. Et puis, il y a une allusion à des vicissitudes, hein, des raisons particulières l'ont obligé de se retirer, des vicissitudes dont Ibn ne dit rien, raisons particulières l'ont obligé à se retirer. D'où l'idée qui vient à Ibn de demander, et dès le début de leur rencontre, c'est ce qu'on comprend dans la suite de la lettre, de demander à ce nouvel ami le récit oral de sa vie, afin de connaître ces fameuses raisons particulières. Et, écrivant à Usbek, il a l'idée de demander à cet homme d'écrire lui-même le récit de cette vie, qu'il inclut dans la lettre. Autrement dit, nous avons là ce qu'on peut identifier comme la première histoire de vie, life story, qui, en anthropologie, exige exactement cet exercice. C'est une autobiographie sollicitée qu'Ibn glisse dans une lettre qu'il envoie à Paris, à Usbek. Et cette autobiographie s'intitule, dont elle est citée intégralement dans le texte de Montesquieu, « Histoire d'Aphéridon, A-P-H-E-R-I-D-O-N, et d'Astarté, que nous pouvons donc lire dans les lettres persanes. » Alors, elle a été très mal commentée par tous les éditeurs des lettres persanes. Ils n'y ont strictement rien compris. Le commentaire littéraire considère, oui, un petit roman oriental... c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas lu, visiblement. Enfin, oui, ils l'ont lu avec des lunettes inadéquates. Et justement, ce n'est pas du tout un conte. C'est un roman vrai, palpitant, en 10 pages. Nous apprenons qu'Aphéridon, dont l'ami d'Ibn, appartient à une famille de guèbres. Alors, j'ai volontairement laissé ce mot en suspens. Guèbres, comme ça se prononce, ou Gore, G-A-U-R-E, désigne en persan les Zoroastriens persécutés par la religion musulmane dominante. Gore est d'ailleurs un terme très péjoratif que ton collègue, la spécialiste de l'Iran, qui enseigne ici, ton collègue ici du collège,
Et qui enseigne quoi
je... et il enseigne le zoroastrisme. Il a écrit un livre sur Zarathoustra, là, qui est très bien.
Bon, on va le
retrouver. Bon, enfin, on le retrouvera. Mais enfin, il m'a expliqué que ça voulait dire au trou du cul. Ah, d'accord. C'est de lui que je le tiens, c'est de la haute érudition. Hein. Et c'est très utile pour comprendre. Alors, le père d'Aphéridon, et voilà l'histoire, pour éviter. Qui est zoroastrien. La religion de Zoroastre. Enfin, Nietzsche l'appelait Zarathoustra. Dont les livres sacrés remontent au début du premier millénaire avant le Christ, et qui est considérée, d'ailleurs au temps des Lumières, hein, comme la plus ancienne religion du monde, la plus ancienne religion connue. Donc le père d'Aphéridon, pour éviter à sa famille les persécutions, a organisé une double vie religieuse. C'est-à-dire que la famille, tout en étant officiellement musulmane, continue à pratiquer dans la clandestinité la religion des pères, la religion des anciens. Mais l'amour s'en mêle, et un amour bien particulier qui naît dès leur jeune âge entre Aphéridon et Astarté, qui est sa sœur. Alors cette attraction est d'autant plus saisissante pour le père qu'il sait qu'elle fait écho à une spécificité, ou du moins présentée comme telle, de l'ancien système de parenté iranien, où l'union dans les familles dominantes du frère et de la sœur était privilégiée. Autrement dit, le père reconnaît comme un surgissement soudain d'une très vieille tradition inscrite dans le système de parenté des premiers zoroastriens, des premiers souverains zoroastriens dont nous connaissons l'histoire.
Il s'appelle Jean Kellens, mon collègue.
Exactement. Voilà. Rendons à Jean Kellens,
oui,
effectivement.
Sa traduction si littérale et élégante du terme.
Et parlante. Alors, affolé, le père propose à sa fille Astarté, au sultan. Qu'il inclut dans son harem, ce qui est évidemment le plus sûr moyen d'affirmer son obéissance et son zèle à l'égard du régime à la fois politique et religieux. Et à partir de là, je vous laisse à imaginer les péripéties passant par une évasion, une capture par des brigands, une réduction en esclavage, une déportation en Géorgie, un rachat généreux par un juif, enfin, etc., reconstitue, sépare, puis reconstitue à nouveau le jeune couple, puisqu'ils ont été mariés clandestinement au désert par un prêtre zoroastrien. Cette aventure est donc racontée en quelques pages par son héros principal, Aphéridon. Et le couple, après des années d'errance, est donc arrivé à Smyrne, en pays musulman toujours, me direz-vous, mais dans un port cosmopolite où la diversité des langues et des religions est plutôt tolérée. Et donc Aphéridon et sa sœur épouse, Astarté, vivent là, en commerçant obscur et honnête, pratiquant évidemment toujours la religion ancestrale. Dans le récit de Montesquieu, les désigne comme des survivants, des derniers, échappés aux joug persans. Mais nous devons au romancier philosophe deux éclaircissements et prolongements de la situation du dernier ou des derniers. Éclaircissement et prolongement qui ressurgiront plus tard dans l'histoire de ce que j'appellerai désormais un paradigme. Alors, ces éclaircissements ou ces expansions sont les suivantes. La première est rétrospective. Autrement dit, sans en faire une note de bas de page, Montesquieu cite ici et là dans son œuvre un personnage entre réalité et légende qui pourrait bien être le modèle ou le prototype d'Aphéridon. Donc là, vous avez une régression mais une régression temporelle très considérable, puisqu'elle nous transporte au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, un autre croyant d'une religion condamnée est parti de Babylone, s'est rendu sur le rivage de la mer Égée et s'est, dit-on, installé face à Smyrne, ou à peu près, à Chios, l'île où serait né Homère. Ce croyant était le dernier des servants, c'est ainsi qu'il s'est présenté aux Grecs qui l'accueillent, le dernier des servants de Marduk, dieu, figure centrale du panthéon babylonien, héritier de l'Acadie mésopotamienne. Et cet homme, les Grecs, l'appelaient Bérossos. Bérossos. On sait qu'il a dicté tout ce qu'il savait du monde mésopotamien multimillénaire d'où il était issu et qu'il considérait comme un monde disparu. Et son récit, que les anciens appellent Babyloniaca, les affaires, les choses de Babylone, récit qui contient entre autres une version magnifique du mythe babylonien du déluge, sont une des grandes œuvres perdues de l'Antiquité, mais dont une dizaine d'historiens et d'encyclopédistes antiques citent des fragments. Et Bérose, constamment édité, réédité, imité, enrichi de faux, pseudo-Bérose, etc., édité et commenté d'ailleurs assez récemment par Leibniz, fut jusqu'au milieu du XIXe siècle l'unique source sur la civilisation d'Akkad et Sumer et Babylone, enfin dans les derniers temps, avant que l'on réussisse à décrypter les cunéiformes. Montesquieu connaissait Bérose, il cite les textes de Bérose, il connaissait cette histoire. Et je ne peux m'empêcher évidemment de penser, parce que vous avez un religieux qui fait un voyage vers l'ouest et qui se réfugie exactement dans le même secteur géographique. Hein, on est Smyrne sur la côte, Chios comme île dans la mer. Je ne peux m'empêcher de penser qu'il y ait en tout cas une réminiscence de cette affaire dans la construction de la figure d'Aphéridon. Vous savez, on a un autre personnage comme ça en Antiquité, c'est un prêtre égyptien qui lui aussi aurait confié le dernier savoir de la vieille cosmologie et théologie égyptienne et qu'à l'époque hellénistique, les scribes grecs auraient ainsi recueilli. Ça, c'est la première expansion qui ouvre, je dirais, une très longue durée dans la construction du personnage. La seconde, et du type. La seconde expansion nous est révélée par un ensemble de lettres, assez voisines d'ailleurs, de celles contenant le récit d'Aphéridon, un ensemble de lettres, une sorte de feuilleton, en fait, adressé par Usbek à Ibn sur la dépopulation du monde. Ce Montesquieu démographe et nous intéresse car il utilise de façon très directe, et là nous devons aux éditeurs, là il faut les saluer, d'avoir repéré cette source, il utilise de façon très directe un vaste traité théologique et philosophique anglais, paru en latin en 1680, sous le titre Telluris Theoria Sacra, la théorie sacrée de la terre, dont l'auteur est un religieux anglican, Thomas Burnett. C'est un essai qui a été traduit assez récemment, d'ailleurs. Là, j'ai une l'édition anglaise doit dater des années 80 ou 70, vous voyez, c'est quelque chose d'assez récent. C'est-à-dire, tous ceux qui l'ont cité jusqu'à cette date, évidemment, ont travaillé sur le texte latin. Alors, c'est à la fois un essai de chronologie géologique et biblique. Il essaie de concilier ce qu'on sait sur l'histoire de la Terre et ce que la Bible enseigne. Et c'est aussi une méditation philosophique sur l'histoire méditation hantée par l'idée de fin des mondes. Alors je vous cite, je vous traduis un passage qui est au début de la théorie sacrée de la Terre de Burnet. Nous sommes l'ultime postérité des premiers hommes, nous autres, tombés dans l'âge de la fin du monde. Par quel cheminement et avec quel guide pouvons-nous remonter jusqu'à ces premiers âges et à ce premier ordre des choses? Alors bien sûr, le déluge est central dans cette affaire. Il n'a pas, selon Burnet, été provoqué par Dieu, mais par les lois de la nature, telles qu'elles ont été mises en place au moment initial de la création. L'ouvrage de Burnet est chez Montesquieu. Il est dans la bibliothèque de La Brède. Il faudrait d'ailleurs aller l'étudier, ce serait intéressant, voir s'il y a des annotations marginales, etc. Autrement dit, une philosophie de l'histoire naturelle et humaine émerge ici. Philosophie qui réapparaîtra laïcisée chez un disciple proclamé, lui, de Montesquieu, Nicolas-Antoine Boulanger, dans son grand ouvrage, en trois volumes, L'Antiquité dévoilée par ses usages, ou examen critique des principales opinions, cérémonies, institutions religieuses et politiques des différents peuples de la Terre, ouvrage publié posthume par le baron d'Holbach en 1766, 7 ans après la mort de son jeune auteur. Boulanger, alors c'est passionnant, Boulanger, c'est un ouvrage tout à fait central et qui, évidemment, est un des piliers, des phares de ce qu'on peut appeler l'anthropologie des Lumières. L'anthropologie des Lumières, on l'a beaucoup décrite à partir des grands auteurs classiques, disons, hein, Rousseau, Diderot, Buffon. Et il y a des œuvres importantes sur l'anthropologie des Lumières, dont Michel Duché, bien sûr. Mais en réalité, les acteurs d'une pensée anthropologique des Lumières sont des gens comme Boulanger, Desmeuniers, Goguet, c'est-à-dire des gens qui ont écrit de véritables sommes où ils prennent à bras le corps l'histoire de l'humanité. Alors, dans le cas de l'histoire, et en même temps, rendre compte à la fois de l'histoire de l'humanité telle qu'elle s'inscrit et qu'elle prolonge l'histoire de la nature, et en même temps réfléchir sur la diversité des institutions, des croyances, des œuvres humaines. Alors, dans le cas de, dans le cas de Boulanger, on trouve le déluge, bien sûr, mais alors lui fait de l'expérience antique du déluge la source et la raison de la diversité des croyances humaines. Et on peut dire qu'il inaugure, après Burnet et de manière peut-être plus large, un style de philosophie de l'histoire qui est à l'intérieur des Lumières, l'envers des Lumières, en ce sens que le progressisme optimiste laisse place à une méditation mélancolique sur, justement, la fin des mondes sociaux. Alors, cette pensée connaîtra des phases d'expansion tout à fait remarquables dans les siècles qui suivent. Et d'ailleurs, Montesquieu lui-même en fait, en 1736, un des bruits de fond de son ouvrage fameux sur les considérations sur la grandeur et la décadence des Romains, qui est le second livre avant l'Esprit des lois, entre les lettres persanes et l'Esprit des lois. Ça, c'est la deuxième expansion où l'on voit s'ouvrir dans le récit de Montesquieu, autour de lui, ou en tout cas en filigrane, ce filon de la philosophie de l'histoire. La troisième expansion du récit des derniers Zoroastriens, celle qui lui donne sa véritable ampleur paradigmatique, est une expansion discrètement présente chez Montesquieu, mais dont je suis sûr qu'il en avait une conscience analytique. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement le lecteur du XXIe siècle qui la découvre. La description de Montesquieu est certes un récit palpitant, plein de rebondissements, mais elle est très organisée par le désir de qualifier ce qui fait la condition du dernier, la différence du dernier. Montesquieu est très précis. Aphéridon et sa famille se reconnaissent et sont reconnus comme les derniers Zoroastriens par trois traits qui les distinguent, qui les différencient. Le premier de ces traits le plus englobant, c'est bien sûr la religion. Ils ont leur religion. Le second de ces traits, c'est le système de parenté, avec le mariage préférentiel avec la sœur. Et le troisième de ces traits, que je n'ai pas encore évoqué, c'est la langue, c'est-à-dire qu'ils communiquent entre eux dans la langue de l'Avesta, du vieil Avesta zoroastrien. Et quand Aphéridon va visiter sa sœur, par exemple, alors qu'elle est prisonnière dans le harem du sultan, il lui parle dans cette langue que les gardes ne comprennent pas. C'est dans cette langue, évidemment, avec ses formules sacramentelles, que le prêtre marie les deux amoureux. Et c'est dans cette langue qu'il continue à pratiquer discrètement leur rite alors qu'ils sont à Smyrne. Trois dimensions de la vie sont ainsi vécues dans le secret et on voit se dessiner une existence en double. D'une part, Aphéridon est installé dans une activité commerciale, enfin, il fait partie du présent de la société de Smyrne. Et d'autre part, mais dans le secret, le silence, ou en tout cas la discrétion, il pratique une expression orale et écrite des règles, des rites qui n'appartiennent pas à cette contemporanéité, qui sont décalées par rapport à cette contemporanéité du social. Ce qui introduit un écart, je dirais, entre ce qu'on appellera plus tard la société, pensée comme le présent du vécu, et la culture, qui est conçue comme mémoire perpétuée, mémoire qui fait l'objet d'un investissement extrême, puisqu'elle est évidemment le dépôt même de l'identité à travers le temps, qui n'est pas simplement l'identité d'une personne, mais qui est l'identité d'un peuple, d'une religion, et dans ce cas précis, avec la conscience d'une immense durée que cette fidélité exprime. Et ça, c'est la subtilité, bien sûr, des grands classiques. Vous savez, les anthropologues utilisent indifféremment société et culture. Et bien, ils ne savent pas de quoi ils parlent quand ils parlent de société, des fois ils parlent de culture, etc. Et ils ont oublié, alors complètement oublié, mais ça je vais y revenir, comment la notion de culture naît d'une introduction de la notion de temporalité et donc d'historicité dans le vécu collectif. Alors tout ceci se tient en puissance, donc, me semble-t-il, en fait, ces expansions dans ce coin des lettres persanes, en puissance, presque comme un noyau d'énergie conceptuelle et créatrice que nous allons voir se déployer maintenant dans une histoire qui va nous rapprocher de notre présent. Alors, je simplifie, mais nous allons retrouver une connexion là particulièrement spectaculaire. Je pense que le premier déploiement de cette thématique, un déploiement formidable qui donne lieu à une floraison de textes pourtant éclos sur un tout autre horizon, se situe donc exactement dans l'année 1760, dans le monde des intellectuels, des jeunes intellectuels écossais et anglais, qui inventent et orchestrent, à partir de cette année-là, l'apparition fracassante d'un phénomène esthétique considérable lié à un nom propre, Ossian. Ossian, comme vous savez, est présenté par un jeune écossais, il a 24 ans, James Macpherson, lorsqu'il publie les Fragments of Ancient Poetry, fragments de poésie ancienne, en 1760, comme un poète, exactement un barde, dont Macpherson transcrit les poèmes, qu'il organisera, puisque vous savez, il y a trois recueils, il y a les fragments de 1760, et puis ensuite, alors, il y a des cycles, des sortes de cycles épiques qui vont prolonger cette première publication, mais où Macpherson est lui-même relayé par toute une série de poètes qui sont en même temps des ethnographes, je mettrai l'expression entre parenthèses. Alors, je parlais d'orchestration tout à l'heure, oui, parce que la thématique du dernier se déploie avec Ossian sur au moins trois niveaux. Parce que qu'est-ce que ça raconte, cette affaire d'Ossian ? Alors là, il faut sortir, bien que ce soit plein d'érudition, mais il faut sortir des traités de littérature comparée, qui bien sûr, sont très utiles. Hein. Vantigem a fait un gros livre, deux volumes énormes sur Ossian en France et en Europe, en réalité, parce qu'il y a beaucoup de choses sur l'Europe. On apprend, bien sûr, une foule de choses, mais je crois qu'il n'a pas saisi l'enjeu de cette affaire, qui me paraît dépasser largement une histoire un peu superficielle du goût. Donc, redoublement de la thématique des derniers. Ossian propose, dans ses poèmes, la chronique des derniers royaumes libres, celtes, des royaumes celtes, d'Écosse. Puisque c'est la fin, arrive ensuite les Saxons, en fait, tout ça va disparaître. Donc, il est le témoin de cette fin. Et d'ailleurs, si vous lisez les poèmes, c'est toujours des lamentations, c'est des histoires terribles, c'est la mort des chefs, en fait, etc., l'enlèvement des filles. C'est la chronique d'une fin. Mais Ossian est lui-même le dernier barde. Il n'y aura plus de barde après Ossian. Donc, il est le dernier barde, incarnation d'un thème qui est un peu antérieur et qu'on voit émerger à la fois en Irlande, mais aussi dans la poésie anglaise de l'époque. Hein. Thomas Gray publie en 1754 un grand poème sur le dernier barde. Alors, ce n'est pas le dernier barde écossais, c'est le dernier barde gallois. Et c'est le barde qui chante devant le souverain et l'armée anglaise hein, qui, au XIIIe siècle, envahissent le pays de Galles. Et d'ailleurs, immédiatement, des tableaux formidables. C'est un topos de la peinture qu'on appelle pré-romantique et romantique. Ces termes sont évidemment à discuter, où l'on voit le barde minuscule et seul dans un paysage chaotique avec des chutes d'eau, enfin des rochers tourmentés, etc., des arbres tordus, et il est là avec son instrument, chantant la mort de sa société. Alors, dernier royaume, dernier barde, et le préfacier de Macpherson, qui s'appelle Hugh Blair comme l'ancien Premier ministre, explique qu'en réalité, tout ça, c'est du passé, mais c'est aussi du présent. Mais qu'il faut vite se précipiter chez les paysans et les pêcheurs des Highlands et pour recueillir sur leur bouche, parce que ce sont les derniers à savoir toute cette histoire. Alors on a là un jeu d'emboîtement et de mise en abîme qui exalte évidemment la situation et qui la déploie en même temps vers un type de travail, un type de travail d'enquête, etc. Parce que Blair appelle à l'enquête, il dit, précipitez-vous, ces paroles vont s'éteindre, ces gens vont mourir. Ils détiennent un savoir qui est celui de notre passé. Alors, bon, je ne vous fais pas toute l'histoire, évidemment, du succès de l'océanisme. En France, c'est intéressant, l'introducteur d'Océan en France, ben, c'est un personnage qui compte dans la pensée des Lumières, en particulier dans la pensée économique des Lumières, c'est Turgot, premier traducteur d'Océan dans le Journal étranger, très vite d'ailleurs, en 62, 63. C'est Turgot, ce sont des traductions qui sont pas mal d'ailleurs, qui sont. Et il présente sa traduction en disant Océan, enfin, c'est la langue sauvage. Alors, j'aime beaucoup cette expression de Turgot. Hein, voilà, nous avons enfin des textes qui portent jusqu'à nous la langue sauvage. Et cette langue sauvage, c'est la langue du dernier locuteur qui va devenir un thème fort de la, je dirais, de la conscience celte. Et c'est quelque chose qui apparaît au XVIIIe siècle. Alors, la figure du dernier locuteur de certains dialectes celtes, en particulier le cornique, qui est le dialecte parlé en Cornouailles, et en 1777, des érudits du secteur identifient la dernière locutrice. En fait, c'est une locutrice, Dolly Pentray, et Dolly Pentray serait la dernière locutrice monolingue du cornique, que plus personne ne parle, dit-on. En fait, il y en a toujours un qui continue à parler. En fait, tout ça, évidemment, est une manière d'allégoriser hein, la fin des mondes. Et d'ailleurs, elle est statufiée. Elle est statufiée à cette époque-là, disons, à la fin du XVIIIe siècle. Et cette statue fait l'objet de véritables pèlerinages hein, de la part des érudits, y compris européens. Et on pourrait montrer qu'en Europe, le monde celte, de façon continue, c'est-à-dire d'Ossian jusqu'à Émile Souvestre, ce journaliste saint-simonien qui publie à Paris en 1836 « Les derniers Bretons hein, », qui est en 4 volumes, qui est un texte, mais il y a le Barzaz-Braise, vous avez là, se déploie à la fois entre l'Irlande, l'Écosse, le Pays de Galles et la Bretagne, une thématique de la fin des mondes, qui véritablement structure un discours sur le passé culturel. Alors, ce foyer celte, dans ses diverses nuances, répond à et rencontre un autre foyer transatlantique. C'est le foyer américain avec la thématique hein, « The last of the tribe », le dernier de la tribu. Dès 1770, on a des libelles, des pièces de théâtre qui développent ce thème, publiées chez les éditeurs et imprimeurs de la côte Est. Et vous avez là... alors. Bon, c'est des choses qui ont été étudiées. Alors, des pièces de théâtre, grâce à Internet, quand même, j'ai trouvé des choses. Enfin, on trouve, on pourrait systématiser la recherche. Bon, il y a quelques thèses américaines là-dessus, dont une importante dont je cherche le nom. Le titre, c'est « The Vanishing Indian ». Et le... bon, ça me reviendra. Hein, c'est pas... mais vous le trouvez facilement, hein, vous avez le titre. Et qui est un travail d'historien, enfin, qui est très bien fait, mais on pourrait le développer plus largement du côté littéraire, avec une réussite, bien sûr, exceptionnelle, 1827, Fenimore Cooper, The Last of Mohican, le dernier des Mohicans, qui fixe, je dirais, dans, à la fois dans le mythe américain et dans la littérature de masse, cette figure du dernier indien. Ça se répand tout ça très vite en Europe, évidemment, puisque Fenimore Cooper, le lendemain quasiment de l'apparition du dernier des Mohicans, est nommé consul des États-Unis à Lyon, chez toi. Et il est immédiatement traduit, enfin, etc. Alors, quand je parle de rencontres et entre ces deux espaces et ces deux thématiques, hein, de la fin des mondes celtes, qui est une fin à répétition, et il n'arrête pas de finir dans le temps, et la fin des tribus américaines que l'on ne peut plus voir là où elles habitaient. Tocqueville écrit des pages, évidemment, magnifiques d'ailleurs, hein, sur où voir aujourd'hui des Hurons, des Delawares. Enfin, il fait la liste des tribus qu'il est impossible de rencontrer. Il est obligé de descendre sur le Missouri pour voir des Indiens. Et quand il les voit, c'est le moment où il quitte leur terre. Hein. Il raconte la traversée du Missouri ou du Mississippi, des Indiens qui laissent leurs chiens sur la rive et les chiens accompagnent de leurs aboiements les derniers de la tribu qui partent vers l'ouest, délogés, bien sûr, par le gouvernement qui leur a acheté, entre guillemets, leur terre. Alors donc, quand je parle de rencontre, il y a un moment assez fascinant où cette rencontre se réalise, je dirais presque physiquement. C'est au mois de mai 1791, lorsque Chateaubriand a embarqué pour l'Amérique. Le brigantin, là, le bateau sur lequel il arrive, est bloqué pendant 15 jours à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et là, il a rencontré sur le bateau un passager qui est un passionné d'océan. Et que fait Chateaubriand pendant ces 15 jours aux portes de l'Amérique dans l'île ? Eh bien, il écrit des poèmes océaniques. C'est-à-dire qu'il cultive la verve océanique. Et comme vous savez, il suffit d'ouvrir Le Voyage en Amérique, mais aussi Les Mémoires d'Outre-Tombe, la thématique des derniers est absolument centrale dans toute l'œuvre de Chateaubriand, puisque lui-même se pense comme un survenant survivant, hein, de l'Ancien Régime. Et toute sa lecture du monde américain est dominée par cette idée d'une perte. Alors, bon, dans les Natchez, évidemment, c'est tout aussi constant. Il écrira même les aventures du dernier Abencerrage, en fait. C'est une thématique récurrente dont on peut dire qu'elle est le noyau sans cesse réactualisé de sa pensée de l'histoire. Et voilà la figure installée. Voilà la figure installée au cœur de la littérature narrative, et elle va se réaliser dans de multiples œuvres qui partagent une conscience malheureuse du progrès et une poétique nostalgique du regret du temps ancien. Alors, on pouvait prendre des œuvres centrales du romantisme. Je pense à Nerval, par exemple, qui est tout à fait extraordinaire, parce que là, on se rapproche de notre espace. Mais les Filles du feu de Nerval, et surtout Sylvie, est une sorte d'incantation au temps retrouvé, mais qui est un temps social, à la fois le temps du village, le temps des rituels, hein, la fête du bouquet, le tir à l'arc, les chansons. Hein, n'oubliez pas qu'au cœur des Filles du Feu, il y a le premier recueil de chansons populaires, la chanson étant la chanson entendue dans l'enfance auprès de sa tante, la chanson étant, depuis Rousseau et le premier livre des Confessions, identifié comme le premier moteur de l'expérience nostalgique. Et tout ça n'a strictement rien à voir, bien sûr, avec les engagements politiques hein, par exemple de Nerval, qui était républicain, qui n'avait aucune nostalgie monarchique, etc. On a là donc une posture à la fois esthétique et morale qui s'épanouit, s'exprime dans cette période. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Avançons, et on va retrouver Montesquieu maintenant. Qu'est-ce qui se passe dans le second 19e siècle ? À propos de ce thème, dont on voit le caractère tout à fait expansif qu'il présente. Eh bien, dans le second 19e siècle, nous assistons à un retour de la réflexivité sur ce sujet. Ça n'est plus simplement l'expression littéraire avec sa dimension nostalgique et lyrique. C'est une pensée de l'histoire qui se trouve reformulée. Reformulée non plus à la manière à la fin du XVIIe et du XVIIIe, c'est-à-dire avec cette hantise du déluge qui devient une espèce de matrice interprétative hein, de cette histoire de fin des mondes. Non, reformulée de manière beaucoup plus moderne, avec l'usage métaphorique d'une notion physique, la notion d'entropie, deuxième principe de la thermodynamique défini par Sadi Carnot à Paris, mais qualifié par un physicien allemand, Clausius, en 1865. Alors, dans un système clos comportant une source de chaleur et un matériau froid, l'énergie produite a tendance à se dégrader. Je vous résume très grossièrement le deuxième principe de la thermodynamique. Sauf que, quasiment instantanément, dans des textes, en particulier philosophiques, ce principe de la thermodynamique qui vaut pour les moteurs à source d'énergie chaude, enfin, qui s'appliquait à un univers technique tout à fait particulier, a été élargi, élevé, généralisé à la dimension du cosmos. Avec cette idée, oui, bon, mais au fond, notre monde vivant, il est nourri par une source de chaleur qui est le soleil, et si l'on suit le principe de Carnot, eh bien, insensiblement, le soleil va perdre sa chaleur et tout le système va tendre à une déperdition d'énergie qui, inéluctablement, conduit à la fin de notre monde. Quand je vous parle de commentateurs, je parle de Schopenhauer, je parle de Nietzsche, je parle de Bergson qui consacre à ces réflexions un chapitre entier, fort documenté d'ailleurs, de l'évolution créatrice, où je parle d'un écrivain, mais qui était en même temps, qui avait une formation scientifique et qui était médecin, c'est Victor Segalen, hein, dont l'essai sur l'exotisme contient des pages extraordinaires sur le destin anthropique de l'espèce humaine, et en particulier des sociétés et des cultures que l'Occident domine. Alors ça, je dirais, c'est un grand discours dont nous verrons qu'il a des aboutissements, bien sûr, tout à fait actuels, peut-être dans la discussion, bah, je pense qu'on est dans le troisième âge théorique de la thématique des derniers, et dans lequel nous nous mettons tous, d'ailleurs. Nous sommes tous des derniers, comme vous savez. Alors, deuxième tournant ou deuxième amplification, ben c'est un tournant programmatique et disciplinaire qui, lui, renoue avec Montesquieu, et c'est tout simplement le tournant de l'invention de l'anthropologie dans son sens de science de la culture. Cette invention a pris un peu de temps, quand même, hein, entre 1840 et 1870, mais elle est exprimée, je dirais, pleinement en 1871 par Edward Taylor, anglais, dans une définition qui est au seuil de son grand livre « Primitive Culture ». Je vous relis cette définition de la culture par Taylor, qui est la définition qui a toujours cours, c'est la définition centrale de la culture par l'anthropologie. La culture est l'ensemble complexe incluant les savoirs, les croyances, les arts, la morale, les lois, les coutumes, ainsi que les autres capacités et habitudes acquises par l'homme en tant que membre d'une société. Donc là, on a une définition très englobante de la culture, avec la tension culture-société. Lui insiste sur l'acquisition. Il faut être membre d'une société, ou l'avoir été, pour acquérir sa culture. Mais, continuons à lire Taylor, l'instrument d'identification, de définition, le scalpel de l'analyste qui permet de caractériser l'effet de culture, c'est le temps. C'est le temps, d'où l'usage par Taylor d'une notion tout à fait mal comprise, qui est la notion de survivance, survival. La culture se survit toujours pour Taylor. Pourquoi ? Parce que la culture, c'est toujours un retour, une remise en circulation, une réactivation ou une appropriation d'un certain passé. Alors, la société avance et la culture, eh bien, elle capitalise, elle récapitule. Et c'est ça, pour Taylor, l'objet de l'anthropologie. Et donc, nous sommes devant un paradigme, et alors là, nous prenons le deuxième document, qu'on peut vraiment définir. Ah ben oui, on va se le partager, mais je dois en avoir un quand même.
Non, vas-y.
Attends, ça y est, je l'ai retrouvé. Et bon, je ne vais pas m'attarder sur ce tableau, mais vous voyez, bon, je l'ai fabriqué de manière à pouvoir comparer trois lieux d'émergence, trois conditions d'émergence, trois dispositifs qui caractérisent l'anthropologie ou ce qu'on pourrait appeler les sciences sociales de terrain. Hein, le premier, je l'ai appelé Hérodote parce que, évidemment, en référence au grand fondateur, et c'est celui que l'anthropologie se raconte depuis le début. Hein, l'anthropologie naît de la rencontre des autres. Alors, je le caractérise par un certain nombre de propriétés. La distance, elle est exotique. Le processus de connaissance, alors j'appelle historia, c'est l'enquête hein, pour Hérodote. L'acte cognitif premier, c'est voir. Le principe de description, c'est la comparaison contrastive. Comparaison de quoi ? Des cultures, des peuples, des ethnies. Hérodote parlait d'ethnoi, bien sûr. Le régime d'historicité, il est généalogique, c'est-à-dire qu'en fait, ces différences, on les inscrit dans un continuum qui est généalogique, qui peut être évolutionniste, qui peut être divers, peut être la suite des âges, âge d'or, âge de fer, etc. Le compte rendu, ce sont des notes du visiteur. Et le genre discursif, en affinité, c'est le récit de voyage. Bon, alors ça, c'est de cette manière que l'anthropologie pense son origine. Et c'est-à-dire comment elle s'est détachée peu à peu des récits de voyageurs, etc. À l'autre extrémité, vous avez un autre paradigme. Alors, De Gérando est un intellectuel, disons, idéologue, enfin, qui appartenait. Mais il a surtout été l'auteur de plusieurs éditions successives et constamment complétées, du Visiteur des pauvres. Et effectivement, là, on est à l'intérieur de nos sociétés. La distance est sociale. Hein, le visiteur va visiter les pauvres, ou les prostituées, ou les ouvriers, etc. L'enquête, oui, définie de quelle manière ? Statistique, comptée. Le principe de description, c'est l'exhaustivité. Il faut essayer de recenser aussi complètement que possible. Et l'objet de l'enquête, ce sont des manques, des fractures, une anomie dans à l'intérieur des sociétés étatiques modernes, celles du XIXe siècle. Le régime d'historicité, il est progressif. On est là pour améliorer le sort de tous et de chacun. On va vers une société où ces anomies seront réduites. La forme de compte-rendu, c'est le rapport statistique. Et le genre discursif en affinité, c'est le reportage et, à certains égards, le roman réaliste. Je passe très vite, là, pour en venir au paradigme central. Les derniers, que j'ai bien sûr baptisé Bérose. Alors là, la distance, elle n'est ni géographique, c'est celle de l'exotisme, ni sociale, elle est épocale. On est devant une rupture, une faille du temps. Le processus de connaissance, le premier processus, c'est enregistrer. Et enregistrer la parole. Hein ? L'acte cognitif, c'est entendre, écouter. Écouter la parole de l'autre. Le principe de description, c'est la totalisation. À partir de l'individu, ou des individus, ou de quelques individus, on déduit un monde, et on construit un monde. L'objet est un. L'objet, c'est-à-dire ce que l'on recueille et ce que l'on vise, c'est un dépôt de savoir qui est dans les survivants. Le régime d'historicité est apocalyptique, c'est-à-dire on pense que l'histoire est une succession de disparitions, enfin de cataclysmes, de ruptures. La forme du compte rendu, la geste de l'acteur, le récit testamentaire, et pensez à Derzou, pensez à Ishii, et les genres discursifs en affinité, à mon avis, il y en a plusieurs. Ça peut être la biographie, l'autobiographie, la poésie aussi dans certains cas, mais ça, si ça vous intéresse, je pourrais développer. Mais quelle heure il est là ?
Bon, oui, ça va. Il y a toujours le même décalage horaire entre Toulouse et Paris. Donc, il est à 17h26.
Voilà. Bon, donc je vais avoir fini assez vite. Donc c'est un paradigme. C'est un paradigme qui se déploie dans des dispositifs de connaissance, des objets particuliers, et aussi, nous allons le voir tout de suite, des méthodes. La discussion infinie entre anthropologues et sociologues, quant à la méthode, elle porte sur un point, c'est celui de l'informateur privilégié. Nos amis sociologues se rendent compte, par exemple, que Françoise Héritier a fait des textes très importants sur les Samos et qu'en réalité, elle a interrogé vraiment en profondeur 5-6 personnes. Alors, les sociologues disent « Mais qu'est-ce que c'est ce truc ? C'est pas représentatif. » Mais oui, parce que l'informateur privilégié, qu'est-ce que c'est ? Si ce n'est l'incarnation négociée de l'individu-monde. C'est-à-dire, quand un anthropologue arrive sur le terrain, il cherche non tellement celui qui sait, mais celui qui accepte de se penser comme totalisant le destin fini de son propre groupe. C'est-à-dire que l'informateur privilégié de l'anthropologue, il est incompréhensible si on ne le pense pas à l'intérieur du paradigme des derniers. Ça devient éclatant, effectivement, dès qu'on s'aperçoit du phénomène. Mais surtout, ce paradigme permet de résoudre une série de questions pendantes. J'en citerai simplement deux. La première, c'est celle du proche et du lointain. Bon, anthropologie, on dit, oui, l'anthropologie, c'est le lointain. Et puis, quand vous faites l'anthropologie at home, comme on disait à un certain moment, c'est le proche, alors il faut expliquer qu'on peut quand même faire de l'anthropologie dans le proche, etc. Mais si l'objet de fond que l'anthropologie n'a jamais véritablement défini comme tel, ce sont les ruptures épocales, mais le proche pullule de ruptures épocales. Hein, vous travaillez à ce moment-là, oui, sur les derniers bretons, sur la fin des paysans, mais aussi sur la fin des sidérurgistes, sur le monde ouvrier qui s'effondre, enfin, etc., etc. C'est-à-dire tous ces effondrements historiques, tous ces moments où des mondes s'évanouissent, s'effondrent, et vous êtes donc dans l'anthropologie, que vous soyez dans le proche ou le lointain. Bon, l'un des très grands livres d'anthropologie des derniers, de ce point de vue, c'est celui de Pierre Bourdieu, Le bal des célibataires. Le bal des célibataires est un chef-d'œuvre d'anthropologie des derniers. Et en plus, c'est un très beau livre. Et si vous le mettez en résonance avec cette très longue histoire, vous vous rendez compte que ce que Bourdieu a fait parler, c'est-à-dire les aînés qui n'arrivent pas à trouver épouse parce que les filles partent et qui ne sont plus donc mariables parce qu'ils ne sont plus ceux qui attirent par leur capital les alliances, c'est la fin d'un monde décrit de l'intérieur et il prend parti pour les derniers. Parce qu'on pourrait réécrire le bal des célibataires de Bourdieu en disant c'est magnifique, c'est la libération de la femme, l'entrée du progrès, les filles partent, elles ne sont plus les esclaves de l'exploitation, etc. Lui, non. Il a cette position de sympathie et d'écoute pour les derniers paysans qui sont ces derniers chefs de famille. Donc la question du proche et du lointain s'efface. Enfin, elle devient tout à fait secondaire. La deuxième question pendante, c'est aussi une antienne un peu obsessionnelle, c'est la relation de l'anthropologie et de la littérature. Alors, je ne parle pas ici de l'interprétation de la littérature par les anthropologues ou avec une méthode anthropologique, etc. Bon, ça, c'est une autre question, hein, très importante d'ailleurs, mais qui vaut d'ailleurs pour toutes les sciences sociales, hein, l'histoire, la sociologie. Non, je parle des affinités qui sont en fait des affinités thématiques, des affinités d'objets. C'est-à-dire que nous avons vu les derniers, le paradigme entrer en scène dans une œuvre littéraire, les lettres persanes. Mais alors, si nous prenons le roman du XIXe siècle, mais vous êtes constamment... Thomas Hardy, qu'est-ce qu'il fait? Si ce n'est d'écrire la fin des mondes ruraux du sud-ouest de l'Angleterre. Que fait Proust? Relisez le bouquin de Descombes. Proust, une philosophie du roman. Les conflits de cosmologie, les mondes qui s'effondrent. Que fait Faulkner? Que fait Singer, Isaac Bashevis Singer, pour le monde des communautés juives d'Europe orientale? Thomas Hardy Lampedusa avec le guépard. Musil avec la Cacanie, enfin, etc. C'est-à-dire, vous avez Verga, le grand romancier sicilien, qui intitule tout son cycle « Il libro dei vinti », le livre des vaincus, dont vous avez une affinité que Barthes, dans un texte des années 64, mais je l'ai noté, je ne sais plus où je l'ai mis, a exprimé de manière très belle, très très belle, en disant, au fond, le grand roman, c'est le roman de la fin des mondes, et il y a aussi une très belle définition de l'ethnologie par Canetti comme la plus mélancolique des sciences. Et c'est là-dessus que je vais terminer, mais en vous lisant un texte, en vous lisant un extrait de la conclusion de Triste Tropique par Lévi-Strauss, dont la pensée à la fois sociale et philosophique me semble incarner de la manière à la fois la plus dense et la plus consciente le paradigme. Le monde a commencé sans l'homme et il s'achèvera sans lui. Les institutions, les mœurs et les coutumes que j'aurai passé ma vie à inventorier et à comprendre sont une efflorescence passagère d'une création par rapport à laquelle elle ne possède aucun sens, sinon peut-être celui de permettre à l'humanité de croire qu'elle y joue un rôle. Depuis qu'il a commencé à respirer et à se nourrir, jusqu'à l'invention des engins atomiques, en passant par la découverte du feu, l'homme n'a rien fait d'autre qu'allègrement dissocier des milliards de structures pour les réduire à un état où elles ne sont plus susceptibles d'intégration. Plutôt qu'anthropologie, il faut décrire anthropologie, E-N-T-R-O-pologie, anthropie. Le nom d'une discipline vouée à étudier le processus de désintégration, ce que les physiciens appellent entropie, c'est-à-dire de l'inertie. Rousseau pensait que le genre de vie que nous appelons aujourd'hui néolithique offre de la direction où l'investigation doit s'orienter l'image expérimentale la plus proche. Au néolithique, l'homme a déjà fait la plupart des inventions qui sont indispensables pour assurer sa sécurité. Avec le néolithique, l'homme s'est mis à l'abri du froid et de la faim. Il a conquis le loisir de penser. Sans doute lutte-t-il mal contre la maladie, mais il n'est pas certain que les progrès de l'hygiène aient fait plus que le rejeter sur d'autres mécanismes, grande famille et guerre d'extermination, la charge de maintenir une mesure démographique à quoi les épidémies contribuaient d'une façon qui n'était pas plus effroyable que les autres. Comme l'autorité de l'homme sur la nature restait très réduite, il se trouvait protégé et dans une certaine mesure affranchi par le coussin amortisseur de ses rêves. Je m'arrêterai là-dessus avec juste un codicille ou un nota bene. C'est que ce texte Lévi-Strauss là, sur le néolithique, enfin présenté comme un âge d'or, eh bien, c'est un des grands thèmes de la littérature française contemporaine. Hein, si vous lisez des romans, si vous lisez Ma vie parmi les ombres de Millet, si vous lisez Pierre Bergougnou, si vous lisez Pierre Michon, si vous lisez le dernier prix Goncourt, Ferrari, hein, où tout le discours est pris dans un va-et-vient avec le sermon de Saint-Augustin sur la chute de Rome, vous vous rendez compte que l'obsession centrale des romanciers français de 50 ans aujourd'hui, c'est en fait l'effondrement, la fin du néolithique, dont ils se présentent comme les derniers. Mais en même temps, bien sûr, ils se pensent aussi comme les premiers à exprimer cette fin. Ce qui fait que, au moment de l'acte, je dirais, créateur, le paradigme s'inverse. Et le dernier devient effectivement le premier. Je m'arrête.
Merci.